Chapitre 13. Il me serait impossible de vous peindre l'état où le rejet de mon appel jeta mon esprit, car je n'en conservais aucun souvenir distinct. Toutes les couleurs disparaissaient la nuit, et pour le désespoir, il n'y a point de jour. La monotonie est son essence et sa malédiction. Je me promenais dans le jardin pendant des heures entières, sans en rapporter d'autres impressions que celles qu'avait faites sur mon oreille le bruit de mes pas. La pensée, le sentiment, la passion, et ceux qui les mettent en œuvre, la vie et l'avenir, tout était pour moi éteint et englouti. Je restai le plus longtemps qu'il m'était possible au jardin, remplaçant le choix que je n'avais plus l'énergie de faire, me dirigeai de ce côté afin d'éviter la présence des religieux. Un soir, j'y aperçus du changement. La fontaine avait besoin de réparation. La source qui lui fournissait de l'eau était située hors des murs du couvent, et les ouvriers, en poursuivant leurs travaux, avaient trouvé nécessaire de creuser un passage sous le mur du jardin, qui communiquait avec un endroit ouvert dans la ville. Ce passage était bien gardé le jour, pendant que les ouvriers étaient à l'ouvrage, et la nuit, il était fermé par une porte construite exprès et à laquelle on avait mis des chaînes, des barreaux et des verrous. On la laissait pourtant ouverte le jour, et cette image attrayante de la liberté au milieu de l'affreuse certitude d'un emprisonnement éternel ajoutait un nouvel aiguillon à ma douleur qui commençait à s'user. J'entrai dans le passage et j'approchai le plus qu'il me fut possible de la porte qui me séparait de la vie. Je m'assis sur une des pierres éparses et j'appuyai ma tête sur mes mains. Je ne sais combien de temps je restai dans cette position. Tout à coup, je fus frappé d'un léger bruit et j'aperçus un papier que quelqu'un faisait passer sous la porte dans un endroit où une légère inégalité dans le terrain rendait la tentative praticable. Je me baissai pour le saisir. On le retira, mais l'instant d'après, une voix dont mon émotion ne me permit pas de distinguer le son dit tout bas « Alonso !»« Oui, oui, » répondis-je vivement. On me mit sur le champ le papier dans la main, et j'entendis l'inconnu qui se retirait avec promptitude. Je ne perdis pas un moment pour lire le peu de mots que contenait le billet. « Soyez ici demain soir à pareille heure. J'ai beaucoup souffert à cause de vous. Détruisez ceci. » Ce billet était de l'écriture de mon frère Rohan. De cette écriture que je connaissais si bien depuis notre dernière correspondance, de cette écriture dont je n'ai jamais contemplé les traits sans sentir renaître l'espérance dans mon sein. Je m'étonne que pendant ces 24 heures, mon émotion ne m'ait pas trahi aux yeux du couvent, mais peut-être n'est-ce que l'émotion occasionnée par des causes frivoles qui se montrent à l'extérieur. J'étais absorbé dans la mienne. Il est du moins certain que pendant toute cette journée, mon âme ne cessait de se mouvoir comme le balancier d'une pendule, qui répéterait alternativement ces mots. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le jour, ce jour éternel, se termina à la fin. La soirée arriva. Oh, comme j'épiais son ombre croissante. Pendant les prières des vêpres, avec quelle joie je considérais les teintes d'or et de pourpre qui brillaient au travers des carreaux de la grande fenêtre de l'église. Il était impossible de voir une soirée plus propice, elle était calme et obscure. Le jardin était désert, on n'y voyait pas une figure humaine, aucun pied ne retentissait dans les allées solitaires. Je hâtai ma marche. Tout à coup, je crus entendre le bruit d'une personne qui me suivait. Je m'arrêtai. Ce n'était que les palpitations de mon propre cœur que je distinguais dans le profond silence de ce moment fatal. Je posai la main sur ma poitrine, comme une mère qui cherche à pacifier son enfant. Cela ne l'empêcha pas pourtant de s'agiter. J'entrai dans le passage. J'approchai de la porte. J'entendais toujours résonner dans mon oreille ces mots. « Soyez ici demain à pareille heure. » Je me baissai et j'aperçus d'un œil qui semblait dévorer ce qu'il voyait, j'aperçus, dis-je, un morceau de papier sous la porte. Je le saisis et le cachai sous ma robe. Je tremblais à tel point de joie que je ne savais comment faire pour l'emporter dans ma cellule sans que l'on me devinât. J'y réussis cependant, et quand je lus cet écrit, son contenu justifia bien mon émotion. Une grande partie en était cependant illisible, parce qu'il avait été jeté entre les pierres et sur une terre humide. Sur la première page, je pus distinguer seulement que mon frère avait été retenu à la campagne, pour ainsi dire en prison, et cela par l'influence du directeur. Un jour, se trouvant à la chasse avec un seul domestique, le désir de liberté fit naître tout à coup en son esprit l'idée d'effrayer cet homme pour en obtenir ce qu'il désirait. En conséquence, il lui présenta le canon de son fusil et le menaça de lui brûler la cervelle s'il faisait la moindre résistance. Le domestique se laissa donc attacher à un arbre. La page suivante, quoique très effacée, m'apprit que mon frère était arrivé, heureusement, à Madrid, où il avait reçu la première nouvelle du mauvais succès de mon appel. L'effet de cette nouvelle sur le tendre, l'ardent, l'impétueux Juan se concevait facilement au style interrompu et irrégulier dans lequel il s'efforçait de le décrire. Il disait ensuite « Je suis présentement à Madrid, fermement résolu de n'en pas sortir que je ne vous ai délivré. Cela n'est pas impossible, pourvu que vous ayez du courage. Il n'y a point de porte, pas même celle d'un couvent qui soit inaccessible à une clé d'or. Mon premier but, celui d'obtenir le moyen de communiquer avec vous, paraissait d'abord aussi impraticable que votre fuite, et cependant, j'y suis parvenu. J'ai appris que l'on faisait des réparations dans le jardin, et je me suis posté tous les jours devant la porte dans l'espoir de vous rencontrer, en vous nommant souvent à voix basse. Ce ne fut que le sixième jour que vous y vîntes. » Dans une autre partie de sa lettre, il décrivait plus amplement son projet. De l'argent et du mystère, tels sont les premiers points auxquels nous devons nous attacher. Je ne crains point d'être dénoncé, grâce au déguisement que je porte. Je me procurerai moins facilement de l'argent. Ma fuite a été si soudaine que je n'ai pas songé à m'en pourvoir avant de partir de la campagne. Aussi, ai-je déjà été obligé de vendre ma montre et mes bagues pour me procurer de quoi vivre et pour acheter des costumes. Je trouverai les plus fortes sommes en me nommant, mais cela pourrait offrir du danger. Le bruit de mon séjour à Madrid parviendrait infailliblement aux oreilles de mon père. Il faudra que je m'adresse à un juif. Une fois que j'aurai de l'argent, je suis presque sûr de vous délivrer. J'ai déjà entendu parler d'un homme qui se trouve dans votre couvent, où il est caché pour des motifs fort extraordinaires. Il serait probablement facile de l'engager à... Les passages de la lettre qui suivaient paraissaient avoir été écrits à de longs intervalles. Les premiers mots que je pus lire montrait quelle était la gaieté naturelle de cet être le plus ardent, le plus léger et le plus généreux qui eût jamais été créé. N'ayez aucune inquiétude pour ce qui me regarde. Il est impossible qu'on me devine. J'ai toujours été connu pour le talent remarquable que je possède pour l'imitation, et ce talent m'est présentement de la plus grande utilité. Quelquefois je parcours les rues sous le costume d'un masso avec d'énormes moustaches. D'autres fois, je prends l'accent d'un biscaïen et comme l'époux de Donna Rodriguez. Je me dis aussi bon gentilhomme que le roi, parce que je viens des montagnes, mais les déguisements qui me plaisent le plus sont ceux d'un mendiant ou d'un bohémien. Le premier me procure un accès dans les couvents, l'autre de l'argent et des nouvelles. Quand les courses et les stratagèmes de la journée sont passés, vous souririez en voyant le grenier et le grabat où l'héritier de Imansada se retire pour prendre du repos. Le sentiment de notre supériorité est quelquefois plus délicieux quand il est renfermé dans notre propre sein que quand tout le monde en est témoin. D'ailleurs, il me semble que le mauvais lit, le siège mal affermi, les poutres couvertes de toiles d'araignée, d'huile rance et tous les autres agréments de ma nouvelle demeure sont une espèce d'expiation de tous les torts que j'ai eus envers vous, Alonso. Je m'attriste parfois au milieu de ces privations auxquelles je ne suis pas accoutumé. Et cependant, je suis soutenu par une sorte d'énergie sauvage et pleine de gaieté qui fait le fond de mon caractère. Ma position me fait frémir la nuit quand je rentre chez moi et quand je place pour la première fois de ma propre main la lampe sur le misérable foyer. Mais le matin, je ris quand je me revêts de bizarres haillons, quand je décolore mon visage et quand j'accentue mon langage au point que les habitants de la maison qui me rencontrent sur l'escalier ne reconnaissent pas leur commensal de la veille. Je change tous les jours de demeure et de costume. Ne craignez rien pour moi, mais venez tous les soirs à la porte du passage, car tous les soirs, j'aurai pour vous des nouvelles fraîches. Mon industrie est infatigable. Mon zèle ne se tarira pas. Mon cœur et mon âme sont tous deux de feu pour votre cause. Je déclare de nouveau que je ne quitterai pas ces lieux avant que vous soyez libre. Alonso, comptez sur moi. Je vous épargnerai, monsieur, le détail de ce que j'ai prouvé à la lecture de cette lettre. Oh mon Dieu, pardonnez-moi l'humilité avec laquelle je baisais ces caractères. J'aurais pu adorer la main qui les avait tracés. Je voyais un être si jeune, si généreux, si dévoué, sacrifier tous les agréments que le rang, la jeunesse et le plaisir peuvent offrir, endossant les déguisements les plus vils, supportant les privations les plus déplorables, surtout pour un enfant fier et voluptueux comme lui, cachant ses souffrances sous une gaieté affectée et sous une magnanimité réelle, et faisant tout cela pour moi. Oh mon Dieu, quels furent mes sentiments. Le lendemain, au soir, je retournai à la porte, mais je ne vis pas de papier. J'attendis jusqu'à ce que l'obscurité fût si profonde que je ne l'eusse pu distinguer quand même qu'il y en aurait eu. Le jour suivant, je fus plus heureux. La même voix déguisée me dit tout bas « Alonso !» et me sembla plus douce qu'aucune musique que je n'eusse jamais entendue. Ce nouveau billet n'était que de quelques lignes. Aussi, je n'eus pas de peine à l'avaler aussitôt que je l'eus parcouru. Voici ce que j'y lus. J'ai trouvé, à la fin, un juif qui consent à m'avancer une somme considérable. Il prétend qu'il ne me connaît pas, mais je suis convaincu que mon nom ne lui est pas étranger. Du reste, il ne me trahira pas, car l'intérêt usuraire qu'il me fait payer ses pratiques illégales m'assure de sa discrétion. Sous peu de jours, je posséderai les moyens de vous délivrer, et j'ai été assez heureux pour découvrir comment ces moyens devront être employés. Le billet ne contenait que cela. Pendant 4 jours consécutifs, les travaux des ouvriers excitèrent une si vive curiosité dans le couvent, où il était facile d'en faire naître, que je n'osais rester dans le passage de peur de causer des soupçons. Pendant tout ce temps, je souffris non seulement l'inquiétude d'une espérance suspendue, mais encore la crainte que le moyen de communication entre mon frère et moi ne fût entièrement rompu, car je savais que les ouvriers n'avaient plus que peu de jours à travailler. Je donnais cet avis à mon frère par la même voie que je recevais les siens, puis je me reprochais de l'avoir pressé. Je réfléchis à la difficulté qu'il devait éprouver à rester caché, à faire des affaires avec des juifs, à gagner les domestiques du couvent. Je songeais à tout ce qu'il avait entrepris et à tout ce qu'il avait souffert. Je craignais ensuite que toutes ces démarches ne fussent inutiles. Je ne voudrais pas recommencer ces 4 journées pour le plus beau trône de la terre. Le soir du 5e jour, je trouvais sous la porte un billet contenant ce qui suit. Tout est arrangé. Je me suis assuré du juif à des conditions bien dignes de lui. Il affecte d'ignorer mon véritable rang et les biens immenses que je dois posséder un jour. Mais il en est fort bien instruit et n'ose pas me trahir pour sa propre sûreté. Il sait qu'il suffirait d'un mot de moi pour le livrer à l'Inquisition. Il y a du reste dans votre couvent un misérable sur le compte duquel j'ai entendu raconter les bruits les plus épouvantables. Il a, dit-on, coupé le cou à son père pendant qu'il soupait, afin de se procurer une légère somme d'argent pour payer une dette contractée au jeu. C'est un Portugais. Après avoir fui la justice humaine dans sa patrie, il a voulu échapper aussi à celle de Dieu. En conséquence, il a feint le repentir le plus complet et il est entré dans votre couvent où il est présentement frère Lay. Mais je sais, de bonne part, que son repentir n'est qu'un manteau dont il couvre le cœur le plus pervers. Il a espéré qu'il empêcherait par là que le gouvernement espagnol ne le livrât aux tribunaux de son pays. C'est sur les crimes de ce misérable que je fonde toutes mes espérances. Il n'hésitera point si l'on peut parvenir à le tenter. Il entreprendra de vous délivrer pour de l'argent, comme pour de l'argent, il entreprendrait de vous étrangler dans votre cellule. Il envie à Judas les 30 pièces d'argent pour lesquelles le sauveur du monde fut vendu. Il vendrait son âme pour la moitié de ce prix. C'est là l'instrument avec lequel il faudra que je travaille. Il est horrible, mais nécessaire. J'ai lu que des plantes et des reptiles les plus venimeux en retiraient les remèdes les plus efficaces. Je ferai de même. J'exprimerai le jus et j'écraserai la plante sous mes pieds. Alonso, ne tremblez point à ces mots. Ne souffrez point que vos habitudes prennent le dessus sur votre caractère. Confiez votre délivrance à moi et aux instruments avec lesquels je suis forcé de travailler. Et ne doutez point que la main qui trace ces lignes ne sert bientôt celle d'un frère heureux et libre. Je lus et relus plusieurs fois dans ma solitude ces lignes, et plus je les relisais, plus je sentais s'élever dans mon âme des doutes et des inquiétudes. Ma confiance diminuait à mesure et dans la même proportion que celle de mon frère semblait augmenter. Il y avait un contraste effrayant entre sa position indépendante et libre de toute crainte et la solitude, la timidité et le danger de la mienne. Quoique je ne cessasse de brûler du désir et de l'espoir de me sauver par son courage et son adresse, je craignais cependant de confier mon sort à un jeune homme si impétueux, à un jeune homme qui avait quitté en secret la maison paternelle, qui vivait à Madrid de ruses et d'impostures et qui avait engagé dans son entreprise un misérable, l'opprobre de la nature. Sur quel fondement reposait donc l'espoir de ma délivrance ? D'un côté, sur la tendre énergie d'un être étourdi, entreprenant et sans soutien, et de l'autre, sur la coopération d'un démon qui commencerait peut-être par s'emparer de la récompense promise et qui mettrait ensuite, en nous trahissant, le sceau à notre malheur mutuel et irréparable. Livré à ces réflexions et souffrant des doutes les plus horribles, je délibérais, je priais, je versais d'abondantes larmes. J'écrivis enfin quelques mots à Rohan pour lui faire connaître avec franchise mes doutes et mes craintes. J'exprimais d'abord les difficultés qui me paraissaient devoir s'opposer à ma fuite. Je disais « Peut-on croire qu'un homme que tout Madrid, que toute l'Espagne poursuivra, pourra réellement parvenir à s'échapper ? La fuite d'un religieux est une chose par elle-même déjà presque impossible. Et comment pourrait-il ensuite rester caché ? Les cloches de tous les couvents de l'Espagne sonneraient d'elles-mêmes pour donner l'alarme sur sa désertion. Les pouvoirs civils, militaires et ecclésiastiques seraient tous sur le qui-vive. Chassé, poursuivi au désespoir, j'errerais de ville en ville sans trouver nulle part de retraite. Il me faudrait braver le courroux de l'Église, la vengeance des lois, la haine de la société, les soupçons du peuple au milieu duquel je serais obligé de me glisser et évitant et en maudissant sa pénétration. Songez à tout cela et à la croix enflammée de l'Inquisition brillant dans le lointain pour couronner le reste. Oh, Rohan, que ne pouvez-vous savoir les terreurs dans lesquelles j'ai vécu, dans lesquelles j'aimerais mieux mourir que de les éprouver de nouveau, dût ma délivrance en être la suite. » Je continuai longtemps sur le même ton. Je répétais l'observation du peu de chance qu'il y avait qu'un religieux espagnol pût quitter son couvent, et je terminai par demander à mon frère, quand même tout réussirait au gré de nos désirs, quand je parviendrais à sortir de ma prison, quand l'Inquisition ne me découvrirait pas ou fermerait les yeux sur ma fuite, ce que je deviendrais et comment je gagnerais ma vie. Je n'étais bon à rien. Je ne connaissais aucune profession. Aussitôt que j'eus achevé cette lettre, une impulsion dont il m'est impossible de rendre compte fit que je la déchirai en 1000 morceaux. Je les brûlai soigneusement, l'un après l'autre, à ma lampe. Je retournai ensuite veiller à la porte du passage, qui était pour moi la porte de l'espérance. En passant dans le corridor, je rencontrai un homme d'un aspect repoussant. Je me rangeai contre le mur, car j'avais pris pour règle de conduite de n'avoir avec les frères d'autres communications que celles que la discipline exigeait. Néanmoins, en passant devant moi, il toucha ma robe et me lança un regard significatif. Je compris sur le champ que c'était là, la personne dont Rohan m'avait parlé dans sa lettre. Quelques instants après, étant descendu au jardin, je trouvai un billet qui confirma mes conjectures. Il contenait ces mots. Je me suis procuré l'argent. Je me suis assuré de notre agent. C'est un démon incarné, mais son courage et son intrépidité ne peuvent être révoqués en doute. Promenez-vous dans le cloître demain soir. Quelqu'un touchera votre robe. Saisissez son poignet gauche, ce sera le signal. S'il hésite, dites-lui à l'oreille « Juan ». Il répondra « Alonso ». C'est là votre homme. Suivez mes conseils. Il vous fera connaître toutes les démarches que j'ai faites. À la lecture de ce billet, il me semblait être devenu une machine montée pour remplir certaines fonctions auxquelles sa coopération est inévitable. L'active vigueur des mouvements de Rohan me donnait malgré moi l'impulsion, et, n'ayant pas le temps de délibérer, je n'avais par conséquent pas celui de faire un choix. Quand une volonté étrangère et puissante agit de cette manière sur nous, quand un autre entreprend de presser, de sentir et d'agir pour nous, c'est avec plaisir que nous lui abandonnons notre responsabilité physique et même morale. Nous disons avec la lâcheté de l'égoïsme « Soit, vous avez décidé pour moi », sans réfléchir que le tribunal de Dieu n'admet point de caution. Je me promenais, Dès le lendemain soir dans le cloître, j'arrangeais mes vêtements, je composais mes regards. On m'aurait cru plongé dans la plus profonde méditation. Je l'étais en effet, mais je ne songeais pas au sujet dont on me croyait occupé. Tandis que je marchais, quelqu'un toucha ma robe. Je tressaillis, et à ma grande consternation, je vis un des frères qui me demande pardon de ce que la manche de sa tunique avait touché la mienne. 2 minutes après, un autre religieux me toucha. Je sentis la différence. Il y avait une force intelligente et communicative dans ce mouvement. Ce dernier saisit ma robe comme quelqu'un qui ne craint point d'être connu, qui n'a pas d'excuses à faire. Comment se fait-il que dans la vie, le crime nous saisisse d'une main ferme et sans crainte, tandis que la conscience la plus pure tremble en glissant sur le bord de notre habit? Je serrai son poignet d'une main mal assurée et je lui dis à l'oreille « Juan ». Il répondit « Alonso » et ne s'arrêta pas un moment. Il me resta pour lors quelques instants pour réfléchir à la singularité de ma destinée qui se trouvait confiée à la fois à deux êtres dont l'un était l'horreur du genre humain et l'autre sa honte. J'éprouvais une antipathie incroyable pour toute communication avec un monstre qui avait essayé de laver son parricide dans une dévotion simulée. Je ne craignais pas moins les passions de Juan et sa précipitation. Enfin, je fus convaincu que j'étais soumis à une puissance qui m'inspirait un invincible effroi et qu'il fallait, pour me délivrer, obéir à tout ce que cette puissance exigerait de moi. La soirée d'après, je commençais ma promenade. Je n'oserais affirmer que mon pas fut aussi ferme, mais je puis attester qu'il avait une régularité artificielle bien plus parfaite que la veille. La même personne toucha de nouveau ma robe et nomma à voix basse « Juan ». Après cela, je ne pouvais plus hésiter. Je dis en passant « Je suis en votre pouvoir ». Une voix rauque me répondit « Non, je suis dans le vôtre ». Je murmurai « Soit, je vous entends. Nous nous appartenons. Oui ». Nous ne pouvons parler ici, mais une occasion favorable s'offre à nous. Demain est la veille de la Pentecôte. Les membres de la communauté vont deux à deux à l'autel passer une heure en prière, et cette cérémonie continue toute la nuit. La version que vous avez inspirée à tous les frères est si vive qu'ils ont unanimement refusé de faire la prière avec vous. Vous serez donc seul. Votre heure est de 2 à 3. Je viendrai vous trouver. Nous pourrons causer sans qu'on nous interrompe. Soupçonne. À ces mots, il me quitta. Tout se passa comme il me l'avait prédit. Les moines se rendirent deux à deux à la prière. Quand mon tour fut venu, on me réveilla et je descendis seul à l'église.